Alors, bonjour à tous, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir prié pour moi. Je vais mieux que quand je suis rentré du Niger. J'ai senti combien il était important que la prière de nos frères et sœurs puisse être adressée à Dieu pour voir sa grâce. Je vais grandement mieux. Gloire à Dieu. J'ai des nouvelles du Niger, l'église est en paix, les frères Gourmanché, les serviteurs de Dieu, travaillent. Cependant, les missionnaires sont pour le moment interdits de se rendre visibles sur le pays parce qu'il y a un risque, une menace d'enlèvement. Donc, ce sont les frères Gourmanché, les pasteurs Gourmanché qui ont pris véritablement le relais. Et nous bénissons Dieu pour les bonnes nouvelles que j'ai depuis quelques jours. Alléluia. Sans tarder, je voudrais m'adresser, bien sûr, à vous, tout en m'ayant adressé à moi-même, concernant, je vais parler de Jésus, bien sûr, mais il y a un thème, c'est la négligence que l'on peut avoir si on ne se rend pas compte dans quel état, dans quel temps aussi nous vivons, et il peut arriver que la négligence a pris le dessus et que l'on ne voit pas la réalité d'une manière objective. Nous allons donc prendre des références dans la parole de Dieu et dire « Seigneur, enseigne-nous ». Non pas un homme qui parle, mais comme nous l'avons entendu dans les prières, Seigneur, que le Saint-Esprit parle. Et c'est ce que je veux plus que tout le monde, car une parole d'homme s'en va, mais la parole de Dieu, elle va demeurer éternellement par le Saint-Esprit. Alléluia. Je vous invite à faire une lecture dans 2 Chroniques, chapitre 29, et le verset 10. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 10. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Encore une autre lecture dans Hébreux, chapitre 2, le verset 3. Hébreux, chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Nous allons prier un instant. Prions tous ensemble que le Seigneur nous parle. Seigneur, c'est toi qui es présent. Du fond de notre incapacité à comprendre, si le Saint-Esprit ne nous éclaire, nous voulons surtout ardemment te dire, éclaire-nous par la vie du Saint-Esprit. Nous voulons entendre ta parole et ta parole pour chacun de nous. Seigneur, fais-le, car tu connais qui nous sommes. Tu sais ce que parfois nous passons et nous passons parfois à côté du vrai but. Alors Seigneur, réveille nos cœurs maintenant en ta présence. Saisis-nous maintenant, nous t'en supplions par le Saint-Esprit et aide-nous, Seigneur, à comprendre les temps fâcheux que nous vivons pour mettre tout l'éveil en marche. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bien sûr, le Seigneur pourrait nous dire, si on le transpose à notre vie actuelle, cessez d'être négligent. Ne vous offensez pas, mais essayons de voir la vérité en face. Dans la négligence, il y a des choses qui s'apparentent. C'est le laisser-aller, c'est être étourdi, c'est prendre à la légère, c'est à passer à côté du but, c'est ne pas s'appliquer. Alors, vous me direz, est-ce que ça me concerne ? Nous allons le voir ensemble. Dieu peut nous parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si une prédication dure demi-heure, peut-être en une seconde, Dieu vous a tout dit. Nous devons le comprendre. Mais faisons attention de ne pas passer à côté, de ne pas prendre à la légère ces avertissements. S'agissant de la négligence, on raconte à l'époque, en 1912, que ce grand paquebot Titanic était en marche et dans les environs de Terre-Neuve, il a heurté un iceberg. Et vous savez ce qui s'est passé ? Il y a eu ce brisement de la coque qui est descendu au fond de la mer et tout d'un moment donné, personne ne croyait puisqu'il y avait tellement de compartiments étanches. On l'avait appelé l'insubmersible, mais il a fallu se ramener à la raison. Où sont les canaux de sauvetage ? Il y en avait, mais il n'y en avait pas suffisamment. Et la loi de la mer, c'est les femmes et les enfants d'abord, sont entrés dans les canaux de sauvetage, et puis il en manquait tellement. Et à un moment donné, eh bien, le bateau s'est levé vers le ciel, et comme un javelot est descendu dans la mer, ce jour-là, 1517 personnes périrent parce que certains avaient négligé de prendre suffisamment dans le paquebot des canaux de sauvetage. La négligence, elle se faufile d'un côté de l'autre, mais attention, quand il s'agit des choses du Seigneur, c'est même plus dramatique que ce drame qui se produisit à l'époque. Comment pourrons-nous échapper si nous négligeons un si grand salut ? Regardez à quel point Dieu s'est adressé à nous. « Je vous aime tant que j'ai envoyé mon Fils unique. Mais qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu te souviennes de nous, qui sommes-nous pour que nous ayons part à une telle grâce que tu nous aimes tant ? Comment échapperons-nous si nous laissons passer, si nous ne saisissons pas l'occasion ? Et je m'adresse à ceux qui, encore, ne sont pas sauvés. Je dis que tout est possible. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont sauvées dans le désert, qui ne sont pas du tout dans une ambiance chrétienne et qui ont compris, qui ont eu la révélation et qui se sont immédiatement tournées vers Jésus. Mais nous, sommes dans un climat où il y a le Saint-Esprit, où il y a la parole de Dieu, où le Seigneur appelle tous, chacun, maintenant, à se repentir. Et la question que je me pose, surtout, ne négligez pas, mais êtes-vous réellement sauvés ? Ne compliquons pas. Nous sommes sauvés par la foi, sans aucun mérite, rien à faire. Ne te sens pas indigne. De toute façon, nous sommes tous indignes. Mais le Seigneur a dit, tu ne seras sauvé que par la foi, dans le sacrifice de Jésus. L'as-tu accepté ? Je vous écris, petits enfants, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et certains de dire, mais que ferons-nous ? Pour ainsi dire, que ferons-nous pour être sauvés ? Voilà des gens qui ne veulent pas passer à côté de l'occasion. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. L'avez-vous fait ? Que tardez-vous ? Ne négligez pas un si grand salut, car un jour, vous ne pourrez pas échapper. Vous frapperez à la porte, ça sera trop tard. Mais maintenant, tandis que le Seigneur t'appelle, je t'en supplie, viens à lui. » Il dit, c'est Jésus qui raconte une parabole, qu'un grand roi a fait des noces pour son fils, et il a dit à ses serviteurs, « Allez appeler tous les conviés. » Certains sont venus, d'autres ne sont pas venus. Mais enfin, je passe au-dessus des détails. La salle des noces de fête était pleine. Mais le roi s'est aperçu de quelqu'un qui n'était pas pareil. Et lui a dit, « Comment as-tu pu entrer ici sans avoir revêtu l'habit des noces ?» Et il est dit qu'il eut la bouche fermée. Oh, il avait négligé, parce que c'était la coutume, de prendre un habit qui était propre à aller à la noce. Mais lui, il s'est faufilé, il s'est infiltré. Mais au regard du roi, il n'a pas pu échapper. Alors, il arrive parfois qu'on peut négliger ce si grand salut, passer à côté de la réalité. Suis-je vraiment sauvé? Ce n'est pas une ambiance. Et même, dirais-je, ce n'est pas parce que vous êtes baptisé. C'est bien. L'ambiance chrétienne et le baptême, c'est bien, c'est l'obéissance au Seigneur. Mais, écoutez, il ne faut pas négliger de rencontrer le Seigneur avec une véritable foi et une repentance. Car, dira-t-il, il y a des personnes qui diront, « Mais Seigneur, on a prophétisé, on a vu des miracles en ton nom. » Et le Seigneur de dire, « Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. » D'autres, il est dit, « Frapperont, Seigneur, nous t'avons entendu enseigner dans nos rues. Nous avons même mangé et bu avec toi. Mais je ne vous ai jamais connu. » Vous qui êtes ouvriers d'iniquité, ça fait trembler. Mais en même temps, ces personnes-là ont négligé un si grand salut. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir tout ce qui nous rappelait qu'ils pouvaient être des enfants de Dieu, des chrétiens, mais quelque chose d'invisible était tout au fond de leur cœur, le péché qu'ils n'avaient jamais abandonné. Comment négligerons-nous un si grand salut alors que le Seigneur nous l'a facilité? Il a tout accompli, nous y reviendrons. Il a tout fait. Si tu invoques le Seigneur maintenant, si tu veux sortir de l'état qui t'enlise, crie au Seigneur, sauve-moi, et il te pardonne immédiatement. Mais attention, nul ne connaît son heure. Nul ne connaît le jour du retour du Seigneur. Et avec imagination, essayez de voir celui qui aura négligé de se préparer, qui tout d'un coup s'aperçoit qu'il est resté et que les autres sont partis. Imaginez. Sois aujourd'hui quelqu'un qui prend à cœur le salut que le Seigneur t'offre. On ne peut pas échapper en négligeant la croix où Christ a été torturé de douleur dans une atrocité les plus cruelles de l'époque. Jésus, là, sur la croix, expie tes fautes, porte ton péché, ta misère, et est en train de vaincre Satan pour te libérer entièrement et te réconcilier avec Dieu. Comment vas-tu échapper si aujourd'hui tu négliges de te tourner vers lui? Oh, j'ai vu des accents d'amour de Dieu qui pourraient dire, souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse. On est jeune, on a des projets, c'est bien normal. Mais se souvenir du Seigneur quand on est jeune, c'est important. Parce que avec les années qui passent, grandit l'indifférence. Le cœur s'endurcit, on s'est habitué, une coquille compacte est devant le cœur et on n'entend plus rien. Mais aujourd'hui, au jour de ta jeunesse, tourne-toi vers le Seigneur car tu es mal dans ta peau. Tu ne peux pas concevoir, continuer ta vie comme ça. Je me mets à ta place à l'âge de 20 ans. J'étais mal dans ma peau. Et je me posais la question, à quoi sert de vivre si je dois mourir un jour? Et j'avais peur de la mort. Jeune? Oui, mais pas sans raison. Les jeunes savent bien que malgré tous les artifices que propose le monde, eh bien, il y a quelque chose, comme le disait quelqu'un avant moi, un vide dans le cœur qui ressemble à Dieu. Et malgré tout ce que l'on fait, là où on va, dans une course effrénée, où on cherche toujours à meubler le temps, on sent qu'il n'y a rien et que si ça doit continuer comme ça, parfois la mort est préférable à la vie, disent certains. Alors tu es jeune, mais Jésus, c'est tout. Il peut tout te donner. Il peut te sortir des ténèbres, du marasme, du malheur. Si simplement, maintenant, tu l'invoques, il te sauvera. Il te sauvera maintenant, il t'aime tant. Et il veut te donner une qualité de vie que personne, personne dans le monde ne pourra te donner. Même si tu choisissais une destination la plus paradisiaque sur la terre, tu seras quand même sur la terre qui est contrôlée et qui gît sous la puissance du malin et tu n'auras pas la paix. Mais maintenant, là où tu es, tu peux t'en sortir. Choisis Jésus. Appelle-le maintenant. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, ne dis pas demain, ne diffère pas l'appel qui est maintenant. Dieu appelle maintenant en tout lieu tous les hommes sur la terre qu'ils aient à se repentir. J'ai peur de demain pour toi. Et puis, il y a des gens qui ont pensé que le jour mauvais est arrivé. Il est dit, avant que le jour mauvais ne vienne, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Il y a 12 000 tentatives de suicide en France. Et pourquoi? Eh bien, c'est toujours la même chose qui revient. Quand on regarde, parfois, en France, on ne manque pas de grand-chose. Il y a tout ce qui peut combler la vie matérielle. Mais l'âme a besoin d'autre chose. Ce n'est pas du matériel. L'âme a besoin de son Créateur. Et tant qu'on n'a pas trouvé le Seigneur, il y a ce grand vide. Alors, je veux vous dire, avant que les jours mauvais ne viennent, où vous direz, je n'y prends point de plaisir, venez à Jésus. Venez, car comment vous pourrez échapper en négligeant un si grand salut alors que c'est maintenant que vous pouvez l'accepter. Et je me souviens de ce jour. C'était pas compliqué. Quand le prédicateur a dit, si quelqu'un en a assez de la vie, veut que ça change, qu'il dise, Seigneur Jésus, sauve-moi. J'ai pris cette parole et je me souviens d'avoir dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. Je ne savais pas les retombées, je ne comprenais pas tout la première fois que j'ai entendu l'évangile, mais dès le lendemain, toute ma vie a été changée. La mort, je n'en ai plus jamais eu peur et le Seigneur m'a donné une qualité de vie, la vie éternelle, comme il a fait pour beaucoup d'entre vous. Alléluia, mais je m'adresse à celui à qui je voudrais appeler et te dire, ne néglige pas aujourd'hui le jour de ton salut. Est-ce que vous voulez un instant que l'on ferme les yeux et que l'on demande grâce au Seigneur? Seigneur, je sais que ta parole, elle est là. Il y a des croisées de chemin où tu nous attends, des intersections où l'on pourrait prendre le mauvais. Et pourtant, aujourd'hui, Seigneur, tu peux allumer tous les feux pour nous dire, voici la direction, marchez-y. Je te prie, parce que Seigneur, ta parole n'est pas lettre morte, et elle est entendue, elle est même comprise. Et même, je pourrais dire avec toi, Seigneur, qu'il y a quelqu'un qui est très concerné et que c'est le moment. Alors, Seigneur, je te remercie. Même si je ne fais pas d'appel, je me suis adressé de ta part à ceux qui, aujourd'hui, ne vont pas négliger, mais qui, au contraire, vont prendre à cœur ce qu'ils entendent. Ça, c'est le contraire de la négligence. Et je te demande, Seigneur, de les garder dans la décision. Ils te disent, Jésus, sauve-moi, pardon de tout le mal, de l'endurcissement, d'avoir provoqué ta personne même par l'enlisement dans le mal. Mais Seigneur, aujourd'hui, tel que je suis, je viens à toi et je me repens. Merci Seigneur pour cette âme sauvée, pour cet homme sauvé, cette femme sauvée, ces jeunes gens, gloire à toi Seigneur. Je te remercie parce que Seigneur, il y a ce que je vais voir de mes yeux et qui s'est passé dans la vie de ceux qui ont été concernés. Et il y a ce que je ne verrai pas, mais que tu as vu. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Alors on va avancer, s'il vous plaît. Maintenant que vous êtes sauvés, vous allez voir que nous pouvons aller plus loin avec le Seigneur. Nous allons lire dans Jérémie, chapitre 4, chapitre 48, et le verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Négliger l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un passage unique, il y a bien des raisons. Le Seigneur ne voudrait pas que l'on le néglige quand on l'a rencontré. Il voudrait constamment cohabiter avec nous. Il y a un passage dans la Bible qui dit « Pourquoi serais-tu comme quelqu'un qui passe, comme un voyageur qui passe la nuit et qui t'en va, qui s'en va ?» Le Seigneur voudrait rester toujours avec nous, vous l'avez compris. Mais on peut négliger. L'œuvre de Dieu, vous le savez, c'est d'être parvenu à devenir semblable à l'image de Jésus. C'est écrit, nous sommes prédestinés à cela. Et on doit y apporter de l'application et des soins. On peut avoir de grands projets, même chrétiens. Mais le premier, c'est que notre vie soit semblable à l'image de Jésus. Et nous ne devons pas le négliger. Si nous le faisons, les gens extérieurement se moqueront parce que l'arbre se reconnaît à son fruit et nous devons ressembler à Jésus. Il a dit qu'il cherche sur la terre de vrais adorateurs à l'esprit et en vérité. Et c'est vrai qu'on peut négliger cela, l'adoration envers le Seigneur. Être subjugué dans l'admiration du Père, de Jésus. Et ça, c'est important, parce qu'il les cherche, ses adorateurs. Trop de gens se plaignent, trop sont ingrats, reçoivent et disent toujours « donne, donne ». Mais nous devons tomber en extase d'adoration, de contemplation envers le Seigneur qui attend cela de chacun de nous. Ne négligez pas cette œuvre d'adoration et ce travail à devenir semblable au Seigneur. Voyez-vous, notre manière de servir Dieu, c'est une manière qui est visible. On n'a pas été appelé à aller dans un monastère, dans un couvent, dans une vie où on s'enferme, mais le Seigneur dira que vos bonnes œuvres soient remarquées et que votre lumière luise ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils glorifient le Seigneur le jour où il les visitera. Et c'est important de ne pas se négliger dans notre comportement, dans nos paroles. dans ce que nous disons, dans ce que nous reflétons. Tiens, il y a un proverbe africain qui dit cela. Ça fait peut-être un peu rire, mais certains disent cela, ce proverbe. Tu ne peux offrir un joli boubou à ton ami si toi-même tu portes une culotte trouée. On ne peut pas servir Dieu en ayant une vie médiocre, négligée. Mais nous devons démontrer que le Saint des Saints habite en chacun de nous. Et ça, c'est important. Comme le disait quelqu'un, on attire les mouches avec un peu de miel plutôt qu'avec une tonne de vinaigre. On peut parler parfois, parler de Jésus, mais si notre vie, notre comportement n'est pas en adéquation avec le Seigneur, eh bien, les gens, est-ce qu'ils vont croire ? Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Dieu veut que nous puissions surveiller d'une part notre cœur et notre vie, puisque ce n'est que quand je suis allé en Afrique que j'ai découvert comment était un manguier. Et je l'ai découvert tout simplement en voyant les mangues qui étaient sur les branches. L'arbre se reconnaît à son fruit. Et on te reconnaîtra dans ta vie privée, quand quelqu'un peut-être te surprendra, mais saura même en te surprenant que tu aimes tellement Jésus, que ta vie est tellement sainte, et que finalement, même si une caméra pouvait plonger dans ton cœur spirituel et projeter au grand public ce qu'il y a dedans, tu ne serais pas du tout gêné parce que tu vis en communion, en transparence avec le Seigneur. Alléluia. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et c'est vrai qu'il faut aussi penser que le Seigneur nous a appelés à tous à être des évangélistes, des témoins. Et pour commencer, dira le Seigneur, attendez. Ils auraient pu dire, c'est le moment. Nous avons des programmes d'évangélisation. Jésus est ressuscité. On va. On a entendu qu'il faut aller. Mais attendez, ne négligez pas cela. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils n'ont pas négligé. Mais était-ce que pour quelques-uns ? Était-ce pour la collectivité qui était restée fidèle et à qui Jésus était apparu ressuscité ? Mais c'était pour chacun. Chaque langue de feu, on l'a vu descendre sur chacun. Et je me dis aujourd'hui, frères et sœurs, ne négligez pas la recherche du baptême du Saint-Esprit pour pouvoir porter l'Évangile, être un témoin en parole, dans le vécu. Mais qui fera ce travail ? Ce n'est pas vos bonnes résolutions du premier de l'an, mais c'est le Saint-Esprit. Plus on est rempli du Saint-Esprit, plus de sa puissance dans notre cœur, la bouche va parler. Nous avons besoin d'être des témoins et ne négligez pas, ne passez pas à côté, ne prenez pas à la légère. Même, je vous dirais, un secret qui ne l'est plus. Quand il m'arrive de ne pas avoir soif d'être rempli tout à nouveau du Saint-Esprit, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Je commence à dire, Seigneur, donne-moi la soif. Parce que quand celui qui a soif vient au Seigneur et qu'il boit, ce sont des fleuves qui jaillissent à l'intérieur de lui-même. Et ce qui manque parfois, ce qu'on néglige, c'est la soif. D'ailleurs, j'ai soif maintenant. J'ai la gorge sèche. Jérémie, il a compris mon message. C'est extraordinaire. Mais quand je n'ai pas soif parce que les choses de la vie viennent nous encombrer, je dis, Seigneur, une soif parmi toutes les soifs au monde qui est plus dramatique que celle d'avoir soif dans un désert où il n'y a pas d'oasis. Seigneur, si je n'ai pas cela pour la puissance du Saint-Esprit, donne-moi ta soif. Et en priant, eh bien, le Seigneur donne de pouvoir s'approcher de lui, d'avoir soif, et ainsi lui a reçu du Père le pouvoir de répandre son Saint-Esprit, et il nous le donne. Amen. Parce que les perdus ne savent pas, ne seront pas réveillés par un art oratoire. Ils seront réveillés par le Saint-Esprit comme nous le premier jour où nous avons été convaincus de péché. C'est pourquoi tout le monde, tous les chrétiens ne devraient pas négliger le baptême du Saint-Esprit, car le Seigneur veut nous le donner à tous. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que j'ai cherché à faire une démonstration. Merci Jérémy. Alors, le Seigneur aussi veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit et que nous ayons les fardeaux des perdus. Si on se rend compte que même Paul disait qu'il avait une grande tristesse dans son cœur. Pourtant, c'est le même qui dira « Soyez toujours joyeux ». Il a dit qu'il avait un chagrin continuel. Malgré tout, il dira « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Mais je veux vous parler de ce fardeau que l'on a parfois négligé et qui est terrible quand on le porte. Comme le disait quelqu'un, tu ne peux savoir ce que pèse un fardeau que tu ne portes pas. Le Seigneur veut mettre son fardeau sur notre cœur. Et là, c'est comme la soif pour le baptême du Saint-Esprit. Je me dis, Seigneur, quand je perds le fardeau des âmes perdues, je viens chercher chez toi ce fardeau. Rien d'autre ne me le donnera. Mais toi, Seigneur, tu veux mettre dans mon cœur, tu veux mettre dans le cœur de ma sœur, de mon frère, le chagrin continuel. Oui, on peut se réjouir de notre salut, nous l'avons manifesté par nos louanges ce matin, mais en même temps, il y a quelque chose. Et une fois, j'en parlais à quelqu'un, il m'a dit « Alors tu ne peux jamais être heureux, tu ne peux jamais être content, tu as toujours ce fardeau, tu as toujours cette tristesse que les gens sont perdus. » Tu n'es pas content quand tu n'as pas pu parler de Jésus à cette personne, que tu la laisses partir comme ça. Non, c'est pas ça. C'est bien compartimenté entre joie dans le Seigneur, mais tristesse continuelle et chagrin tant que les gens sont perdus. Et le Seigneur veut nous donner ce fardeau, frères et sœurs. Il faut le demander. On néglige trop. On est dans la vie parmi le monde. On est comme un numéro, mais en réalité, le Seigneur voudrait que l'on soit un témoin qui éclaire, qui illumine. Et j'en viens à dire le fardeau. Il se voit dans le secret, ça se verra publiquement dans nos réunions de prière, mais dans le secret, quand le Seigneur te donne le fardeau dans ta chambre, quand tu as fermé la porte, et que parfois tu as du mal à te relever de ce temps de prière, d'enfantement, d'intercession pour les perdus. Dieu veut que tu ne négliges pas cela. Église, Jésus t'appelle. Mes frères, mes sœurs, Jésus vous appelle à avoir ce fardeau, car la continuation de Jésus qui allait de lieu en lieu, qui était ému de compassion, qui voyait les foules sans berger, qui a pleuré sur Jérusalem, Jésus va continuer au travers de vous. Par ce fardeau, il veut continuer à ce que vous puissiez être impliqués dans le salut des âmes tant que vous êtes sur la terre. Et alors, j'en viens à ne pas négliger cette intercession fidèle. Je vous demande avant toute chose de prier pour tous les hommes, ainsi pour les rois qui sont élevés en dignité, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il tarde à l'égard de tous, ne voulant qu'aucun périsse, Mais avant toute chose, priez. Il y a 5 continents dans le monde, je ne vous apprends rien. Il y a plus de 7 milliards d'habitants sur la Terre, je ne vous apprends rien. J'ai fait un calcul qui ne veut pas dire grand-chose, mais je vous le livre quand même. Parce que des fois, les chiffres, ça peut parler, ça peut, tiens, nous réveiller de notre négligence parfois. On dit que une personne sur la Terre meurt chaque 2 secondes. Alors, je l'ai mis en jours, au regard des 7 milliards et quelques d'habitants sur la Terre. Chaque jour, il y a 43 000 personnes qui meurent. Sachant que peut-être même il n'y a pas 1 milliard de gens, de frères et sœurs nés de nouveau. Mais je le passe, qu'il y a 1 milliard. Donc 1/7. Ce qui veut dire que chaque jour où 43 000 personnes meurent, il y en a 37 000 qui vont en enfer et 6 000 qui vont au paradis. Je vous le laisse comme ça. Je ne suis pas un mathématicien, mais je me suis servi du fait des statistiques qui sont analysées. Alors, faire l'œuvre de Dieu avec négligence, c'est grave, parce que même que le Seigneur a tout accompli, il a tout fait, il compte sur nous. Je le vois à des exceptions, parfois dans le monde, quand le Seigneur dit à un ange, « Va révéler Jésus à un musulman dans le désert », eh bien, on a vu des personnes se tourner vers Jésus, mais l'ange, il y est allé immédiatement. Quand le Seigneur dit, j'appelle mon église, j'appelle mes enfants à aller partout dans le monde, vers toutes les ethnies, toutes les nations, pour leur rendre témoignage, prêcher la bonne nouvelle, est-ce que parfois nous ne négligeons pas? Je vais terminer. Cependant, je vous invite à faire cette lecture dans Josué chapitre 18 et le verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël, « Jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné ? Choisissez 3 hommes par tribu, je les ferai partir. » Ils se levèrent, parcoururent le pays, traceront un plan en vue du partage. Amen. Alors le contexte, je ne vais pas trop m'y attarder, mais Josué avait tellement combattu, et il gagna toutes les villes en combattant. Le pays était devant eux, mais il semblait qu'ils étaient tous agglutinés là, à attendre. Et c'est là que la voix de Dieu, par l'intermédiaire de Josué, dira, « Mais jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du territoire que Dieu vous a donné ?» Ah, ça ne m'avait peut-être pas effleuré. On n'avait pas pensé, on était là au repos, on attendait. Alors je voudrais transposer cela pour terminer à notre actualité. On attend quoi? Qu'attendons-nous? Certains diront, j'attends le réveil, j'attends que l'Église se réveille, j'attends d'avoir la victoire, j'attends que ça aille mieux pour moi. Qu'attendons-nous? Laissez-moi vous dire que nous négligeons. Il est dit que, avant d'expirer, Jésus sur la croix a écrié, s'est écrié, tout est accompli. Tout ! Jésus a vaincu les ténèbres, les a dépouillés en spectacle par sa mort sur la croix. La victoire sur Satan, sur les démons, a été une fois pour toutes remportée par Jésus pour nous. Dira-t-il même, voici les miracles qui vous accompagneront, vous chasserez les démons. Et parfois, on est là. On dit le diable fait que. Comment le diable fait que me gêner, m'entraver, me tracasser? Prenez la victoire, frères et sœurs. Le pays est devant vous. Les victoires sont remportées par Jésus. Et il faut le croire. Promesse de Jésus, c'est oui et amen dans le Seigneur Jésus. Alors la guérison, prenez la victoire, prions. Oui, vous allez me dire, est-ce que vous êtes aussi obtus pour une guérison divine? Oui. Première des réactions, nous prions le Seigneur qu'il nous guérisse. Sinon, le Seigneur a mis en nous tout un processus qui peut faire qu'on peut guérir dans l'autodéfense que nous avons dans le corps, ou alors nous incliner, nous diriger vers la médecine et les progrès. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons nous en sortir et qu'il faut prier pour cela, pour que le Seigneur nous dirige, nous exauce, nous sorte de l'encombrement, de la maladie, de la fatigue, de la douleur. Amen. Et le Seigneur peut nous diriger vers une personne qui a étudié, qui a compris, qui a diagnostiqué ce que nous avons, qui a exactement le traitement. N'ayez pas peur. Je crois toujours à la guérison divine. Mais quand même, il faut le avouer, que parfois nous avons eu recours, même pour les plus spirituels, nous avons eu recours à la médecine et le Seigneur a orienté des personnes qui ont pu nous apporter les soins que nous avions besoin. Mais ce que je veux dire, c'est que le Seigneur a vaincu, il a porté nos maladies, nos infirmités, et il veut donc que nous en sortions. Amen. Le pays de la victoire pour la santé a été manifesté par Jésus. Et c'est pareil pour les soucis. Le Seigneur, quand même, a clamé fort qu'il faut se décharger sur lui de tous nos soucis, nos fardeaux. Quel est ton souci? Ne néglige pas. Au prix et au bénéfice de ton souci, tu détruis ta vie spirituelle, l'œuvre que le Seigneur aurait voulu faire avec toi. Tu es encombré. Le Seigneur dit aujourd'hui, tu vas me parler de ton souci. Appelle le souci comme il est et décharge-t'en sur moi. Car il a dit, ne vous inquiétez de rien, c'est très fort. Mais comment donc, Seigneur? Tu me tapes sur l'épaule, t'inquiète pas, alors que tu vois tout ce que j'ai devant moi. Problème familial, surendettement, chômage, malheur, solitude. Seigneur, tu me dis, t'inquiète pas, courage. Non, t'inquiète de rien, mais fais-moi connaître par des prières, des supplications, des actions de grâce, et je vais commencer à te donner la paix qui garde ton cœur en moi, Jésus-Christ. Et le reste, le Seigneur dit, je le fais. J'ai trouvé le moyen de t'en sortir. Et souvent, on néglige, et on va plutôt clamer aux autres nos plaintes, nos malheurs, nos tristesses, tellement qu'en plus on accable les autres. Le Seigneur dit, je voudrais que tu me dises à moi ta plainte. Et même David disait dans un psaume, je dirai à l'Éternel ma plainte. Et des fois, eh bien, il m'arrive d'avoir envie de dire aux autres, là, ça ne va pas, j'ai ma plainte à le dire. Non, je ne le fais pas, je vais en priorité au Seigneur. Et il y a presque au 99,99%, je n'ai pas besoin de le dire aux autres, parce qu'il s'en est occupé. Amen. Le pays est devant vous. Pourquoi négligez-vous de prendre possession? Le Seigneur a dit que nous devons marcher par la foi. Amen. J'ai un mauvais caractère, certains diront. Comment? Tu as un mauvais caractère? C'est parce que tu veux le garder. J'ai mis devant toi le fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Comment? Mais tu négliges de prendre ce que je t'ai donné. J'ai gagné sur toi sur ta chair, dira Jésus. Quand j'ai été crucifié, tu as été crucifié avec moi. Et si tu vis aujourd'hui, c'est moi qui vis en toi, dira Jésus. Et tu peux dominer ton caractère, tu peux dominer ton langage, tu peux dominer tous tes troubles, parce que j'ai gagné pour toi le fruit de l'Esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Et il est dit que Paul, il a vu peut-être les Éphésiens, d'autres chrétiens. Il a dit, je prie pour que les yeux de votre cœur s'ouvrent et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que voyez l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Parfois, on néglige. Seigneur, je n'y vois plus rien. Tout est trouble autour de moi. Mais je vais prier, Seigneur. Les yeux de mon cœur, certainement, ne voient pas. Mais je vais voir. Et là, tu vas voir la délivrance que le Seigneur t'a donnée. Tout en terminant, voyez-vous, Josué, il a dit, vous allez choisir des hommes. Vous allez parcourir le territoire qui est déjà gagné. Vous allez faire des plans et vous allez le partager en sept, puisque cette tribu n'avait pas encore pris l'héritage. Et vous allez aller. Et voyez-vous, c'est ça qui a fait le déclic. Ils sont partis, ils ont partagé, ils ont fait des plans. Alors, jusqu'à quand négligerons-nous ? Nous entendons, nous connaissons, il nous dit quelque chose, et pourquoi pas aujourd'hui prendre des mesures, des plans adaptés pour dire « Oh, maintenant, je veux sortir de la négligence, je ne veux pas manquer l'occasion, je ne veux pas prendre à la légère ce que j'entends. Dès aujourd'hui, je vais consacrer une demi-heure à commencer à prier le Seigneur de ce que j'ai entendu. » Et je vais mettre toute ma semaine, s'il le faut, jusqu'à que je sois rempli du Saint-Esprit. Voilà mon but que je me trace. Et je veux vraiment occuper ce territoire et sortir de la négligence. C'est comme ça. Sans quoi, vous savez, on surfe sur les vagues. On ne va jamais en profondeur. On entend une prédication qui chasse l'autre prédication. Et ainsi va la vie, on est toujours les mêmes. Mais aujourd'hui, prenons des mesures. Le Seigneur dit, si tu entends ma voix, tu ne dois pas te borner à écouter la parole, mais tu dois la pratiquer. Et pour la pratiquer, il faut faire des actes. Même dans l'Ancien Testament, Josué dira, eh bien, allez-y spirituellement prendre votre pays, votre territoire. Non, non, il a été très pragmatique. Il a dit, prenez des plans, tracez des plans, et c'est comme ça qu'ils ont gagné sur la négligence et qu'ils ont pris le territoire. Maintenant, mes fils, dira la parole de Dieu, cessez d'être négligents, car le Seigneur vous a choisi pour vous tenir à son service, pour faire alliance avec vous. Et je crois que quand on se soustrait à la négligence, le Seigneur se montre dans toute sa gloire, dans toute sa puissance. Que Dieu nous aide et nous bénisse. Aide-nous, Seigneur, à tracer des plans qui nous sont personnels. Nous ne voulons pas être des surréalistes, mais vraiment ce que nous pouvons faire, nous voulons le mener jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donne à mes sœurs, à mes frères, après avoir pris des mesures adaptées pour ne plus négliger, donne-leur de s'en tenir à cela et d'être endurant en prenant la force du Seigneur en eux. Avec lui, nous ferons des exploits. Je puis tout par celui qui me fortifie. En lui, nous avons tout pleinement. Seigneur, aide-nous à vivre et à pratiquer ta parole. Amen.